2003-2010. La marche du temps. Il était encore trop jeune pour savoir que la mémoire du cœur efface les mauvais souvenirs et embellit les bons, que c'est grâce à cet artifice que l'on parvient à accepter le passé. Gabriel Garcia Marquez. 1. Le temps a repris son cours. J'ai continué à me réveiller une fois par an, toujours à Manhattan ou dans l'État de New York, parfois dans des endroits agréables, le marché aux fleurs de la 28e rue, un canapé moelleux du Campbell Apartment, la plage de Rockaway Beach un matin d'été, parfois dans des lieux plus rugueux, Hart Island, la fosse commune de New York, piétiné par la foule sur la 5e avenue lors du défilé de la Saint-Patrick, sur une scène de crime dans la chambre d'un hôtel miteux de Bedford-Stuyvesant, avec un cadavre encore chaud qui se vidait de son sang. J'avais mis au point une routine. D'abord, veiller à porter tout le temps des vêtements chauds, de bonnes chaussures, une montre, et avoir suffisamment d'argent sur moi au moment de mon départ. Puis, lorsque c'était possible, à mon réveil, je sautais immédiatement dans un taxi et je rentrais retrouver ma famille. Benjamin grandissait vite. Trop vite. Pendant toute l'année, Lisa confectionnait de volumineux albums photos et des films qui me permettaient à chaque retour de me faire croire que je rattrapais un peu du temps perdu. En les visionnant, je découvrais les yeux brillants, les premiers sourires de mon fils, ses premiers « papa, bravo, coucou, au revoir ». Ses deux premières connotes qui le faisaient ressembler à Bugs Bunny, ses petits pas hésitants, ses livres d'images, ses peluches, ses puzzles, ses caprices, ses colères, ses déhanchements trépidants chaque fois qu'il entendait de la musique. Plus tard, ses premières phrases, ses premières frappes dans un ballon, ses dessins de bonhomme ou de maison, son déguisement de cow-boy, son tricycle. Je n'étais pas là lors de ses rentrées des classes. Je n'ai vu aucun de ses spectacles de fin d'année. Ce n'est pas moi qui lui ai appris les couleurs ou à compter, pas moi non plus qui lui ai fait réciter son alphabet, qui lui ai retiré les roues arrière de son vélo ou ses brassards à la piscine. Lorsque je rentrais à la maison, je faisais mon possible pour enfiler mon costume de père. Un père en pointillé qui revenait toujours à l'improviste, qui tombait parfois mal et qui repartait aussi vite qu'il était arrivé. 2. Pourtant, nous avons connu des journées parfaites. Des journées où, pendant quelques heures, nous devenions ce que nous souhaitions le plus au monde. Une famille, comme les autres. En 2006, à Coney Island, le jour de la fête de l'indépendance, Ben a 4 ans. Je le porte sur mes épaules. Le soleil est au zénith. Avec Lisa, nous flânons main dans la main sur la promenade de bois qui longe la plage, en nous rappelant avec nostalgie que nous sommes venus ici en plein hiver, 9 ans plus tôt. Nous allons nous baigner en famille, manger un hot dog au Nathan's Famous, faire un tour de grande roue et de montagnes russes. Le soir, nous rejoignons Sullivan pour assister au feu d'artifice tiré depuis les rives de l'East River. Un dimanche d'octobre 2007, j'ai repris connaissance à quelques dizaines de mètres de la maison, sous un lampadaire de Christopher Street. Il est un peu plus de midi lorsque je sonne à la porte. C'est mon grand-père qui m'ouvre. Comme chaque fois, nous nous étreignons longuement.
« Tu tombes bien !»
me dit-il. Alors que je fronce les sourcils, il m'entraîne vers la salle à manger. Autour de la table, je rencontre, pour la première fois, les parents de Lisa.
« Je vous avais bien dit qu'il existait !» lance-t-elle en se jetant dans mes bras. « Papa, maman, je vous présente l'homme qui disparaît. »
Et la journée se passe avec mes beaux-parents, comme si je les connaissais depuis toujours. Fin mai 2008, 8h du soir. C'est le Manhattan Henge, le solstice de Manhattan. Il y a foule dans les rues pour assister au coucher du soleil qui, deux fois par an, s'aligne impeccablement dans l'axe est-ouest des grandes artères de la ville. Lisa et Ben sont devant la maison. Mon fils est sur son vélo et sa mère, qui me tourne le dos, ne me voit pas arriver.
« C'est papa !»
hurle-t-il en m'apercevant.
« Papa !»
Alors qu'il pédale comme un dératé, je vois Lisa qui se retourne. Elle est enceinte de bientôt 8 mois. « C'est une petite fille », me dit-elle en nichant sa tête au creux de mon épaule. Je suis aussi ému que la première fois. Mais cette fois, j'arrive trop tôt pour l'accouchement. Elle écarte les bras pour me signifier que ce n'est pas grave.
« Je t'attendais pour choisir le prénom, mais j'ai ma petite idée. Que penses-tu de Sophia ?»
Un samedi matin de l'été 2009, dans le cocon protecteur de notre maison, tandis que Lisa succombe au plaisir décadent d'une tartine au beurre salé et au Nutella, Je prends ma guitare sèche et je plaque les accords d'une chanson de Leonard Cohen. « So long, Marianne ». Sur sa chaise haute, la petite Sophia, ma belle princesse, m'accompagne en battant la mesure avec une cuillère qu'elle frappe avec ferveur contre son assiette en plastique. Déguisé en indien, Benjamin fait la danse de la pluie autour de la console de la cuisine. Sur le plan de travail est posé un exemplaire de Time Magazine, avec en couverture la photo d'un tigre du Bengale, barré d'un titre inquiétant. Changement climatique, vers un nouvel âge de disparition des espèces. Je regarde mes enfants et les trouve magnifiques. C'est grâce à eux que je tiens debout. Ils m'aident à ne pas renoncer, à garder la foi en l'avenir. Mais chaque fois que je pose les yeux sur eux, je me souviens de l'inscription sur la plaque de cuivre. Après le souffle des 24 vents, il ne restera rien. Chaque fois, une petite voix me rappelle la mise en garde de Sullivan. Considère que tout ce que tu auras construit n'est qu'un château de sable qui sera emporté par les vagues. C'est cela, la véritable malédiction du phare. Au matin du 24e jour, tout sera anéanti. Aucune des personnes que tu auras croisées ne se souviendra de toi. Je ne l'oublie pas, mais j'ai décidé de vivre comme si l'histoire ne se répétait pas forcément. Comme le prisonnier qui compte les jours avant sa libération, je compte les années qui me séparent du 24e voyage. Mon jugement dernier. Un soir du printemps 2010, je porte Ben dans mes bras jusqu'à son lit. Il s'est endormi devant le Blu-ray d'Avatar que nous avons regardé en famille, dans le canapé de notre salon. Je le couche, le borde, l'embrasse fort. Je fais surtout provision de son odeur jusqu'à l'année prochaine. Alors que je m'apprête à quitter la chambre, il me retient par la manche.
« Tu t'en vas, papa ?»«
Oui, mon grand, » dis-je en m'asseyant sur le lit.
« Tu vas où déjà ?»«
Je ne vais nulle part, Ben. Tu le sais très bien, on en a déjà discuté. » Mon fils se redresse dans son lit et remonte son oreiller.
« Tu ne vas pas voir ton autre famille ?»
demande-t-il, la voix teintée par l'angoisse.
« Non, Ben, je n'ai pas d'autre famille, voyons. Je n'ai que vous, maman, grand-père, Sophia et toi.
Il n'y a personne d'autre. » Je lui ébouriffe les cheveux. Il insiste, presque en colère.
« Mais pendant que tu n'es pas avec nous, tu es forcément quelque part. C'est pas possible, sinon. »
Je pose la main sur son épaule. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais pour moi, le temps s'écoule différemment. Maman te l'a expliqué plusieurs fois. Il soupire et demande
« Un jour, les choses vont devenir normales ?»
Je l'espère.
« Quand ?»«
Dans 5 ans, dis-je. En 2015. » Il fait un calcul mental.
« En 2015, j'aurai 13 ans. »
« Je suis d'accord, c'est encore loin. Allez, recouche-toi maintenant. »
Je peux te regarder disparaître ?
Non, non. Ce n'est ni un jeu, ni un tour de magie. Et puis, je ne repars pas tout de suite. Je vais encore rester un peu avec maman. De nouveau, je le borde et l'embrasse. Pendant mon absence, je compte sur toi pour être gentil avec ta sœur et surtout avec maman. Il hoche la tête et affirme.
Lorsque tu n'es pas là, c'est moi le chef de la maison.
Non, Ben. Le chef, c'est maman. Toi, tu es l'homme de la maison. On est d'accord ?
On est d'accord.
3. Le temps filait à toute vitesse. Déjà la décennie 2010 touchait à sa fin. L'Amérique en avait terminé avec la famille Bush et les années Obama se profilaient. À chacun de mes retours, je continuais d'observer les mutations du monde. L'Internet envahissait tout, cannibalisait tout. La musique, les livres, le cinéma. Les gens vivaient avec un téléphone portable greffé à la main qu'ils consultaient d'un regard distrait toutes les 3 minutes. iPhone, Facebook, Google, Amazon. Tout devenait virtuel, numérique, immatériel. Les correspondances, les échanges, les amis, les loisirs. Dans les conversations, beaucoup de références culturelles m'échappaient. Je ne connaissais pas les nouveaux acteurs, les nouveaux groupes de rock, les nouvelles célébrités dont je ne comprenais même pas toujours pourquoi elles étaient célèbres. Je me souvenais des remarques de mon père au début des années 1980, lorsque je passais des heures à écouter mon Walkman à cassette.
Cet appareil va créer des générations de tarés et de sourdingues. Madonna est une pute, David Bowie un travelo et Eric Clapton un drogué.
À mon tour, je me faisais l'effet d'être un de ces vieux cons réactionnaires que je détestais lorsque j'étais ado. J'étais un voyageur qui ne faisait que traverser l'époque sans y vivre vraiment. Je n'avais plus les mots, je n'avais plus les codes. J'étais largué, déphasé,
dépassé par ce monde qui était de moins en moins le mien et qui me faisait peur. Désormais, ma famille était mon seul ancrage et mon seul horizon.